Věřme dál socialismus a demokracii.
Vážení přátelé,
uvažujeme i gosti.
27. sjezd KPSS.
Sous la conduite du général Volcker et du général Dean, héros
du combat de Tejan. Placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba. Yes or no?
La fabrique de la guerre froide.
CSCE.
Antenne 2, 2 août 1976.
Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe. L'une des trois conférences internationales, totalement indépendante de celle de Vienne sur les MBFR, réduction mutuelle équilibrée des forces en Europe, et de celle de Genève, les SALT, conférence sur le désarmement nucléaire États-Unis-Union soviétique. Participent donc à cette conférence États-Unis, Canada et 35 pays européens, un de plus que prévu à l'origine, la principauté de Monaco. Seule en Europe, l'Albanie boude la conférence, l'Albanie avec en filigrane l'opposition de la Chine. Incontestablement, on aborde aujourd'hui une étape décisive de la détente en Europe, conférence qui n'aurait pas été concevable auparavant sans la liquidation de la guerre froide.
C'est une conférence, la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui a été à la base imaginée par les soviétiques et qui s'est retournée contre eux.
Nicolas Badalassi.
Le but des soviétiques, à partir des années 50, est d'obtenir des occidentaux une reconnaissance de la division de l'Europe en deux blocs et une reconnaissance de la mainmise soviétique sur l'Europe de l'Est. Surtout dans le cadre du conflit latent entre l'URSS et la Chine, les soviétiques ayant peur de combattre sur deux fronts à la fois, Mao étant très critique à l'égard justement de la politique de conciliation des soviétiques à l'égard de l'Ouest, et notamment de la non-utilisation par les soviétiques de l'arme nucléaire contre l'Occident. Les pays, notamment de la communauté européenne, réalisent que la proposition soviétique, qui est constamment réitérée depuis les années 50 et tout au long des années 60, de réunir une conférence au cours de laquelle on consacrerait le statu quo, qui a toujours été refusée jusque-là, cette proposition soviétique après 68, tout à coup, elle suscite un intérêt pour les pays d'Europe de l'Ouest. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on se dit que on pourrait en acceptait le principe visant à consacrer le statu quo, mais en échange, on pourrait intégrer dans l'ordre du jour de la conférence toute une série de normes sur la protection des droits de l'homme, sur les échanges culturels, sur la circulation des personnes entre l'Est et l'Ouest. Donc, la condition sine qua non des pays d'Europe de l'Ouest pour organiser cette conférence, c'est que Moscou accepte d'intégrer dans l'ordre du jour des idées qui vont à l'encontre du modèle soviétique, qui sont jugés comme bourgeois. Les droits de l'homme, c'est jugé comme bourgeois par l'Union soviétique. L'URSS de Brejnev dit oui. Donc pendant deux ans, on négocie pour essayer d'aboutir à un compromis entre ces deux idées. Les principaux interlocuteurs de l'URSS dans cette affaire, ce sont les Européens de l'Ouest et pas les Américains, en tout cas jusqu'en 1974. Donc ce sont les Européens de l'Ouest qui vont réussir à faire accepter aux soviétiques toute une série de normes qui seront inscrites dans l'acte final, à savoir le respect des droits de l'homme, la circulation des personnes entre l'Est et l'Ouest, le principe des mariages binationaux entre une personne qui vient de l'Est, une autre qui vient de l'Ouest, le développement des échanges culturels entre les deux blocs, bref, toute une série de dispositions que les soviétiques, après de longues négociations, finissent par accepter. Ils acceptent parce que pour eux, ce qui importe, c'est la division de l'Europe en deux et la reconnaissance du statu quo. Donc le principe clé qu'on trouve dans l'acte final d'Helsinki, c'est celui d'inviolabilité des frontières, que les soviétiques perçoivent comme un synonyme d'intangibilité des frontières, ce qui n'est en réalité pas la même chose, puisque contrairement à ce que voulaient les soviétiques, les occidentaux vont ajouter dans l'acte final le principe de changement pacifique des frontières. Donc c'est un document qui est assez ambigu au final, mais grâce à ce principe de changement pacifique des frontières, les Occidentaux, contrairement à ce que l'opinion publique croit en 1975, à aucun moment ne reconnaissent le statu quo. Mais la propagande soviétique fait passer l'acte final pour une reconnaissance du statu quo, mais en fait c'est faux. Et pour ce qui est des droits de l'homme et de toutes les dispositions en matière d'échanges culturels, etc., eh bien, en Union soviétique, le KGB et les principaux dirigeants se disent qu'après tout, on accepte tout, mais on n'est pas obligé d'appliquer ensuite. notamment tout ce qui concerne les échanges de personnes, la circulation des idées, la vente des journaux occidentaux en URSS. Donc on accepte, mais le KGB se chargera par la suite de ne pas appliquer toutes ces dispositions. Donc évidemment, entre 75 et 83, on revient en période de guerre froide intense. Donc les accords d'Helsinki seront assez peu appliqué au final, mais passé 83, puis avec l'arrivée de Gorbatchev, l'URSS va appliquer ses accords. Donc c'est un forum qui est fondamental finalement, puisqu'elle permet le maintien du dialogue entre les deux blocs. Alors que jusqu'aux années 70, le dialogue était en général bilatéral, hein, et pas tous les pays européens ne pouvaient y prendre part. Pour les Européens, c'est un réel succès, parce que ce sont eux, hein, les Européens de l'Ouest, les pays de la communauté européenne, qui parviennent véritablement à imposer ces mesures libérales dans le texte de l'acte final signé par Brejnev. Alors à partir de 1974, sous la pression de l'opinion publique notamment, qui veut moraliser la politique américaine, justement les États-Unis entrent dans la danse, à l'époque de Gerald Ford, qui signera lui-même l'acte final, et ce qui fait qu'ils pourront se prévaloir, les Américains pourront se prévaloir par la suite d'avoir joué un rôle dans le processus d'Helsinki, qui, surtout à partir de la deuxième moitié des années 80, deviendra le cadre de la troisième et dernière détente. Et la fin de la guerre froide en 90 se fera véritablement dans le cadre de la CSCE.